Une question de Raphaël.
Est-ce qu'il faut étudier pour pouvoir comprendre l'intrication entre les mondes immatériels et les mondes matériels?
C'est-à-dire?
Le monde d'Hachem et de ses anges, et le monde des sphères et le monde ici-bas.
Comprendre cela?
Pour pouvoir comprendre cela, qu'est-ce qu'il faut étudier?
Première réponse, j'ignore. J'imagine que c'est dans la mystique juive. Mais je ne pense pas qu'on puisse le comprendre bien. Le peu que je sais, c'est que quand on parle d'Hachem, on parle de l'infini, on parle de création spirituelle totale dont nous n'avons aucune image, parce que ça n'a pas d'image. On en parle. Il y a des noms d'anges, il y a des noms de Dieu, il y a des réalités. Mais ce sont d'exemples de réalités. Et l'exemple n'a rien à voir avec... Il n'a pas rien à voir, mais il a presque rien à voir avec la réalité qu'il représente. Ce ne sont que des exemples. Je peux, disons, essayer d'étancher ta soif de compréhension et dire qu'on ne peut pas comprendre comment ça se goupille, mais on peut voir que ça se goupille, qu'il y a une relation extrêmement puissante entre les deux. D'abord, l'exemple que nous prenons toujours pour la relation qu'il y a entre Dieu et nous, c'est nous-mêmes, comme nous sommes construits. Comme dit le roi David, « Mibsari echeze eloka ». De ma chair, je vois Dieu. Tu vois que toi-même, tu n'es pas un être physique. Ton toi profond qui veut, qui pense, qui désire, ce n'est pas de la physique. On ne peut pas... palper une pensée, on ne peut pas palper un désir. Donc tu existes. Maintenant, cette chose impalpable qu'on va dénommer le moi, d'accord, il a un corps. Il s'exprime par un corps. Et c'est un secret qu'aucun neurologue n'a pu encore déceler. Ils n'y arriveront pas, parce que c'est le secret dont tu demandes la compréhension, qui à mon avis n'est pas compréhensible, ce n'est qu'un secret, mais c'est une réalité. On voit que ce n'est pas clair chez les neurologues, il y a deux écoles. Il y en a qui disent, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Tu as une pensée. Alors, la pensée, c'est une chose qui est impalpable. Elle se traduit par une excitation de neurones. On peut même déterminer quelle partie du cerveau, déterminer quelle sorte de pensée. Il y a une partie du cerveau qui gère les mains, d'autres la bouche, d'autres le côté plus affectif, plus rationnel. Donc, maintenant, il y a deux écoles. Une qui dit la pensée agit sur les neurones. Une autre dit non, les neurones agissent et créent la pensée. Nous opterons plutôt pour la première école, qui dit que moi j'existe, je suis au-dessus de mon cerveau, au-dessus au niveau de la valeur, je ne sais pas si géographiquement on est au-dessus. En tout cas, il y a une réalité spirituelle qui est moi, qui ne se traduit pas par une pensée, mais par une volonté. Parce qu'avant la pensée, il y a la volonté, qui est traduite en pensée. Ou, appelle-le si tu veux, pensée profonde et pensée formulée. Tu as envie de boire. Ça provoque chez toi tout d'un coup la parole « j'ai soif ». Pour arriver à dire « j'ai soif », il y a un... D'abord, il y a un stimulant.
C'est toujours les neurones qui induisent la...
Non, mais il y a deux choses. Il y a le stimuli de l'estomac. Il y a tout le système de régulation de l'eau qui est très compliqué au niveau physique dans l'être humain, qui envoie un message au cerveau. Besoin d'eau. Besoin d'eau. Les neurones envoient un message à la pensée. Besoin d'eau. Pensée vient à moi. Moi, quand on me dit message du cerveau, besoin d'eau, j'ai un désir provoqué par le corps. En l'occurrence, un désir peut être provoqué par le corps, d'habitude, peut être aussi provoqué par une pulsion beaucoup plus élevée. Un désir de justice, un désir de sens, c'est beaucoup plus haut. Mais peu importe quel stimuli qui va provoquer la pensée, qui va provoquer la volonté, il y a une volonté. Attends, si quelqu'un a la volonté de soif, alors maintenant, il va dire « j'ai soif ». Entre le désir de dire j'ai soif et entre l'action de dire j'ai soif, il y a beaucoup de... Tu vois comment un enfant, ça lui prend quelques années à arriver à parler. D'accord ? Il y a la traduction de la volonté en pensée. Donc, la volonté, ça descend maintenant dans le cerveau, en pensée, formulation. Et là, ça a une sorte de corrélation entre la pensée et les neurones. Les neurones se mettent maintenant à penser, j'ai soif. Et maintenant, il faut le formuler. Alors, on va dans la région du cerveau qui s'occupe de la langue, d'accord, de la bouche. Et c'est très compliqué. T'es une langue, tu as vu comment c'est arrivé à... Le poumon doit prendre, sortir du son, ça accède, d'accord, il faut qu'il y ait un son au niveau de la gorge, après dans la bouche, etc. Bon, arriver à articuler, pas se tromper. J'ai, il y a un sujet, après il y a un verbe, après il y a soif, je sais pas, c'est un adjectif, hein, d'accord. Donc, il y a, pas se tromper dans l'intonation. J'ai soif, non, d'accord, j'ai soif non plus, il y a tout. Donc tout cela se fait une pensée très, très rapide, mais ça c'est géré par... À la base, une volonté, ensuite une pensée, ensuite il y a un passage entre la pensée et le neurone. L'autre école dira non, ce sont les neurones elles-mêmes qui vont générer la pensée. Quoi qu'il en soit, ici a lieu le point de friction entre le physique et le métaphysique. Et personne en connaît le secret. Absolument personne au monde. Ça s'appelle le secret de la vie. Comment se fait-il qu'on a un corps mort ? Et un corps vivant. Les deux pèsent à peu près le même poids. On dit qu'on a vérifié qu'il y a une différence de 24,5 grammes entre un corps vivant et un corps 21 grammes en un corps vivant et un corps mort. Bon, admettons. Alors quoi, l'âme, elle a un poids. J'ignore. En tout cas, c'est certain que l'âme qui habite le corps a une relation intrinsèque. Alors, c'est une chose qui existe maintenant. Ça, c'est chez nous. Pour répondre à la question, comment on arrive maintenant à Dieu ? Il est certain, au niveau du vécu, comme je peux le voir sans l'expliquer, mais il y a une réalité qu'aucun neurologue, aucun physicien ne peut nier. Réalité de relation entre une partie qui est spirituelle, le psyché, psychologie, psyché, logos du psyché, d'accord ? Il y a un logos, ça veut dire une science du psyché de l'âme. Il y a une âme, il y a une réalité qu'on appelle... spirituel, psyché, qui agit sur le physique, psychosomatique, le soma, c'est le physique. De même que ça existe, il y a, nous prétendons que ça existe aussi au niveau spirituel. C'est ça qu'on appelle la mitzvah. Quand je prie, quand je mets les tefillin, quand je porte un habit avec quatre coins, je mets des fils, quand je fais une bracha, quoi que je fasse comme mitzvah, dans l'intention de faire une mitzvah, alors il y a une corrélation, une incidence entre l'acte et la spiritualité. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux faire partir un message du matériel au spirituel, et je peux recevoir des messages du spirituel au matériel. C'est en corrélation. Flux de lumière, flux de bracha, flux de bénédiction, ça veut dire d'abondance, de bonheur. C'est en corrélation. Au niveau du santé aussi, dans la prière, quelqu'un, dernièrement, on a fait un cours sur la prière, quelqu'un m'a dit, mais Dieu ne répond pas, c'est toi, cher homme, qui a dit. Je te réponds, oui, qui répond. Et pareil, pareil, oh, je te parle. Non, pas comme ça. Mais il y a une conviction intime qui n'est pas du domaine de l'imagination, qu'effectivement, nous sommes ici en relation très étroite avec Dieu. Ce à quoi tu dis ?
Le monde immatériel n'est pas dans le temps. Donc comment pouvez-vous dire qu'il y a une relation entre quelque chose chez nous qui est temporel et quelque chose qui est intemporel ?
Ok. Alors, la mystique en parle de ça un peu. Et effectivement, la Torah parle de choses qui sont bizarres. Dieu veut. Dieu décide. Dieu, des fois, regrette, c'est marqué. Dieu est en colère. Dieu se venge. Dieu aime. C'est presque de l'idolâtrie. Il y a des sentiments, il y a une image. Alors non. C'est à peu près toute la mystique juive se réduit à expliquer comment a lieu ce qu'on appelle Ishtashelut HaOlamot, l'enchaînement du monde, depuis ce qu'on appelle Amitato Itbarach. c'est pas le nom de Dieu, c'est au-dessus du nom. Donc ça n'a pas de nom, on appelle cela sa vérité, béni soit-elle. On ne sait pas ce que c'est. Il y a un rab à Beit Vagan, le rab à Hadès, il l'appelle le kivyachol, le en quelque sorte. Que tu diras, c'est pas ça. Dans ce qu'il parle, il y en a qui disent Hachem, mais il dit le kivyachol, le en quelque sorte, le en quelque sorte. C'est plus juste, parce que c'est pas ça. On a tendance toujours à imager, d'accord. Alors, pour rappeler qu'il n'y a pas d'image, qu'on ne saisit pas ce que c'est, on l'appelle le en quelque sorte. De lui sort, de lui béni soit-il, dont on ne peut pas parler, parce que c'est absolu, et l'absolu ne peut pas tolérer qu'on parle de lui. Déjà, c'est que nous sommes extérieurs, alors s'il est absolu, il est partout. Et une parole tout à fait insuffisante pour qualifier, pour définir. Donc on est dans le tellement indéfini que même la parole n'est pas de lieu. Après cela, il y a ce qu'on appelle l'infini, si on descend. Dans l'infini, il y a ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est la contraction. C'est là qu'il y a le passage de l'infini dans le fini. C'est que, je te dis qu'elle s'est marquée, et c'est un secret que nous ne comprenons pas. Que dans l'infini, il y a une contraction de l'infini où il y a une place au fini. Un vide dans le fini. Et dans ce vide-là, Dieu crée le monde. Ce qui ressemble d'ailleurs extraordinairement au Big Bang, d'accord ? C'est pour te dire juste comment c'est marqué. C'est marqué, ça a été écrit il y a 500 ans, hein, quand même, clairement. Ça a été dit auparavant, ils ne sont plus cachés, mais clairement, que dans l'infini, il y a une contraction de l'infini qui a laissé un vide. Alors quand je fais comme ça, alors les petits-enfants comprennent qu'il y a une forme géographique, mais on ne parle pas de géographie. On ne parle pas que dans l'infini, donc il y a une bulle, d'accord ? Ça, c'est infantile. On parle de réalité philosophique. On parle d'une réalité, ce n'est pas de la philo non plus, ce n'est pas de la parlotte. Il y a une réalité, c'est pour ça que la Kabbalah n'est que pour les gens qui peuvent comprendre, qui ne comprennent pas et qui ne tombent pas dans des exemples. Pour qu'il y ait une réalité qui soit du domaine du tangible, il faut qu'il y ait un retrait de l'absolu. Donc, il y a un retrait de l'absolu qui laisse une réalité de tangible. Cette réalité, elle est vide au début. Dieu va prendre de l'infini tout le substrat qu'on appelle du din. Le din, c'est une voie de conduite de Dieu qui est rigoureuse, qui est la retenue, retenir, ne rien donner. Si ce n'est, quand il y a une nécessité extrême, d'après la justice la plus rigoureuse qu'il puisse y avoir, l'attribut de rigueur, din. Qui pourrait correspondre en physique à la gravitation universelle. Les masses s'attirent. On attire, on ne donne pas, on prend. Qu'est-ce qu'on a au début du monde, au niveau de la physique, de l'astrophysique ? On n'a rien. On n'a rien. Et tout à coup, on ne sait pas, il y a. Big Bang. Les grands astrophysiciens, les cosmogones, sont pour leur majorité des croyants. Parce que comment dire qu'il n'y a rien et tout à coup, il y a ? On parle de création ex nihilo. Qu'est-ce qu'il y a au début ? Une petite boule, minuscule. Si Internet ici nous dirait exactement, on est arrivé, je crois, à 0,10^-33 secondes, mètres. 10^-33, donc 0, tu mets 33 0 et 1, 1, de mètres à ce moment-là. Et c'est là combien ? Je crois que c'est 0,41 de secondes. On est arrivé au premier temps, on n'arrive pas à aller trop, à l'heure zéro, c'est impossible. Un peu après. Soit on a donc une petite boule minuscule de magma, c'est même pas de la matière, c'est même pas encore des particules de matière, du magma, dans lequel tu as le monde entier, toute la masse qui pèse la masse du monde. Température de 10^-19 degrés Celsius, 10 milliards de milliards. Tout noir. Tout noir, comme les trous noirs. C'est-à-dire que tu as une masse tellement importante que l'attraction, la gravitation de cette masse est plus grande que la force de libération de la lumière. La lumière veut se libérer, les photons, la chose, les particules les plus légères de l'univers veulent se dégager de cette grosse masse, cette petite grosse masse, d'accord, petite masse en quantité, mais grosse en masse, la plus grosse masse de l'univers, tout l'univers est là. Donc il y a une attraction qui est très forte, plus forte que la force de libération des photons. Donc quand on regarde ce soleil incandescent de 10 milliards de milliards de degrés, dont il y a encore le résultant de la température dans l'univers, Penzias et Wilson ont reçu il y a une vingtaine d'années le prix Nobel de physique par avoir découvert l'onde de choc du Big Bang et le résidu de température du Big Bang dans l'univers. Que le zéro absolu, c'est moins de 73 et que le virgule quelque chose. Et on n'a pas trouvé de froid plus froid que moins 270. C'est-à-dire chaud, plus chaud que la réalité la plus basse. D'où est cette chaleur? C'est le résultat, c'est la résultante, le résidu de température du Big Bang. 10 milliards de milliards de degrés à l'origine. Donc c'est un soleil incandescent, tout noir, parce que la masse est tellement forte, elle retient même la lumière. Tout coup, il y a une force, on ne comprend pas comment ça se fait, une force, une action qui fait que ça explose. On appelle ça en bon hébreu, Yehi Or, qui est lumière. Qu'est-ce qui se passe? Ça se met à grossir. Tout à coup, à mesure que ça grossit, ça explose, la force de gravitation, elle diminue. Première chose qui se dégage de cette masse, qu'est-ce que c'est? La lumière. Va Yehi Or, et il fut lumière. Et dès lors, le monde est en expansion. Alors comment c'est marqué? Ça c'est l'astrophysique. Comment c'est marqué dans la mystique juive? Dans le vide de la réalité primordiale, Dieu a pris un substrat de tout le din qu'il y a dans l'infini, c'est-à-dire toute la force d'attraction, et l'a mis au centre. Une petite boule minuscule, Ayuli, le Ramban dit il y a 800 ans, de la matière extrêmement fine. Mais toute la matière du monde est là-dedans. Rachid dit aussi qu'à la premier moment du monde, toute la matière a été créée. Pendant 6 jours, Dieu va travailler la matière. On arrive au tableau de Mendeleïev, les 92 éléments, mais ça prend du temps. Au début, tu as toute la matière qui est créée. Tac. Tohu vavohu. Mélangé, c'est magma, magmatique. Substrat du din. Force de gravitation, ça attire très fort. Après, marqué dans la mystique juive, Dieu va amener un fil de lumière de l'infini qui va rentrer dans cette boule, elle va exploser et elle va remplir tout le vide. Et ça fait la réalité, dans laquelle il y a du din, ça veut dire il y a des limites, ce n'est pas un monde infini absolu sans limites, donc il y a place à la créature, mais si ce serait que du din, ça resterait invivable. Donc Dieu a mis la lumière qui est le chesed, qui est l'infinité bonté de Dieu, qui est, et Dieu joue sur ces deux plans. Le monde, comme c'est marqué, que Dieu avait, il voulait créer le monde par l'attribut de din, il a vu que le monde était invivable, donc il a associé l'attribut de miséricorde. Hachem Elohim. Elohim, c'est din, Hachem Kevavke, c'est... Voilà. Ça, c'est en très résumé comment ça se passe. Après cela, ça continue, il y a une descente des mondes, jusqu'à ce qu'on arrive à l'image que Dieu prend pour s'adresser, le nom que Dieu prend pour s'adresser au monde, quand on parle de lui, on parle, Yudke Vavke. Donc il y a une réalité qui est spirituelle, mais à laquelle on peut s'adresser. Et la mystique juive va parler donc de toute cette descente des mondes qui arrive jusqu'à nous, après la Tzilout, après tu descends la Bria, Yetzira, Asiya, notre monde, Asiya, aussi des milliers de mondes, tu arrives à notre monde, à nous, nous sommes là le plus bas, le plus affreux, mais le plus grand dans la mesure où, dans ce monde-ci aussi, on va connaître Dieu. Alors, la mystique juive va t'expliquer cela, mais est-ce que tu vas le saisir? Presque insaisissable. Est-ce que tu peux le saisir au niveau du vécu? Oui. Parce que quand quelqu'un s'investit dans la Torah, il se sanctifie au moment où il y a un perçu de sainteté. C'est une chose qui se perçoit, la sainteté. C'est palpable. Comme je peux palper que moi, qui suis une chose qui est impalpable, j'ai une pensée qui se traduit dans un corps. De même, la sainteté de Dieu peut se traduire dans notre corps. C'est ce que je peux dire. C'est ce que, pas parce que je ne veux pas, plus que ce que je peux dans ma humble connaissance. Baruch Adonai, l'homme.